RCF.
C'est un exercice qui, pour moi, n'est pas facile parce que ça m'était demandé déjà il y a plusieurs mois et je viens de finir le travail aujourd'hui. Puis à parler à partir de ma propre foi concernant mon travail parce que j'exerce d'abord en milieu hospitalier et mon souci c'est de rester quand même plutôt discret en fait pour pouvoir... que dans ce lieu où il y a différentes confessions et différents points de vue, tous puissent s'exprimer et que je ne sois pas un frein à travers les étiquettes qu'on peut me coller pour pouvoir que s'exerce cette belle discipline de la médecine. Il n'empêche que j'exerce avec les valeurs qui ont déjà fait l'objet de thèmes de conférences, notamment, et tout ce que j'essaie de mettre en pratique rejoint tout à fait ce que disent les évêques de France sur le point de vue de l'Église catholique sur ce qui se passe en soins palliatifs. Du coup, je vais essayer de vous parler de ce que, là, en tant que croyant, en tant que catholique, je vis à travers mon métier, donc ça va. Enfin, je vais vous témoigner un petit peu de choses personnelles finalement. Je vais essayer de vous faire entrer un petit peu dans mon service à travers ce que j'essaie de vivre, ce que j'essaie de laisser transparaître de cette vie de foi. C'est pour ça que j'ai intitulé cette conférence « Au terme de la vie, au cœur de la souffrance de l'homme ». Présence du Dieu vivant, qui m'a habité en réfléchissant à ce que j'allais vous partager, c'est que pour moi, le monde spirituel, qui est invisible, il est pourtant pour moi très concret. C'est un monde de sens profond et qui se voit, mais il faut des lunettes spéciales. Ces lunettes, c'est celles de la foi qui permettent de distinguer nettement ce qui se passe avec amour. Sans ces lunettes, c'est flou, illisible, voire inquiétant. Mais avec les lunettes, tout prend sens. Mais avec ces lunettes, vous ne pouvez pas tout voir, tout embrasser en une seule fois. Vous portez nécessairement attention à une chose, puis une autre, selon le chemin que fait vos yeux, par attirance successive et ordonnée, pour une chose puis l'autre. Avez-vous déjà rencontré le Dieu vivant ? Pour moi, son nom, c'est « Je suis avec toi et je t'aime ». Les patients nous demandent souvent « Mais pourquoi je suis en vie ? Pourquoi je suis encore en vie ? À quoi ça sert ?» C'est une question profonde. Il y a quelque chose que moi j'ai reçu, c'est « Tu es là pour une seule chose, pour être aimé. » Il n'y a rien de particulier à faire en premier lieu, si ce n'est aller puiser à cette joie la plus profonde d'être aimé. Après, avec cette joie débordante, cela donne envie d'être avec d'autres, et après seulement, peut-être, de laisser quelque chose se faire en soi qui devient action. Quelle est la première recommandation pour vivre vraiment ? Cette recommandation, c'est écoute. Je vous parle de tout ça parce que c'est vraiment la base de mon travail. On aurait pu commencer par de la médecine, etc., mais je vous en parlerai un petit peu plus loin parce qu'il faut quand même que vous sachiez comment les gens meurent, et qu'est-ce qu'ils vivent, pour mieux comprendre ce qui se passe, mais... Là, pour moi, c'est vraiment essentiel parce que quand je vais au travail, je vais avec cette trame-là, cette structure-là qui m'habite et qui est est-ce que je suis cette première recommandation qui est pour que moi je puisse vivre, mets-toi à l'écoute. C'est la base de mon travail. Donc, reprenons, j'arrive à mon travail, cesse de t'agiter, de vouloir faire des tas de choses dans tous les sens, de croire que tu sais, de vouloir coûte que coûte aider ton prochain en samaritain qui se croit bon. Un bébé, quand on lui parle, sait écouter. Il est tout ouvert à cette écoute. Il faut des années pour réapprendre à se taire, pour écouter ce qui se passe, pour écouter l'autre, l'écouter sans le juger, sans interpréter, l'écouter simplement se dire dans ce qu'il vit de joyeux ou de difficile, l'écouter avec amour, s'émerveiller des petits chemins qui mènent aux petites rivières où il s'abreuve, trembler avec lui sur les chemins qui frôlent les ravins de la mort. Une prière du fils du roi David, le roi Salomon, qui avait compris comment recevoir la sagesse. « Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. » Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute. C'est aussi, Seigneur, donne-moi cette intelligence profonde qui discerne avec amour. Il s'agit d'abord d'avoir ce cœur plein d'attention et de bienveillance qui distingue, grâce aux lunettes, mais qui ne juge jamais. Mais c'est encore plus que cela. C'est avoir cette prévenance et promptitude d'une mère, ce frémissement qui vient du plus profond du ventre, vous savez, cette miséricorde qui vous envahit lorsque vous voyez votre enfant plein de larmes, qui tourne son regard vers vous, attendant que vous le preniez dans ses bras, ou ce saisissement qui vous fait bondir pour l'arracher à la mort lorsqu'il va traverser la route où circulent des voitures qu'il n'a pas vues. C'est ça, la base de mon travail. Alors bien sûr, c'est pas facile, hein. Il y a des jours, j'arrive en pétard, notamment en fait s'il y a des choses qui me plaisent pas dans mon service ou que certains patients ont fait je sais pas trop quoi en fait, et je me dis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc là, en principe, ce que j'essaie de faire, c'est d'en parler à mes collègues avant, de dire mais je comprends pas. Et puis une fois que j'en ai parlé, ça c'est quand même beaucoup plus pratique parce que quelque chose est déposé, j'ai pu évacuer comme une, vous savez, comme sur les cathédrales, là, les gargouilles qui crachent tout ce qui va pas, hors de l'église. Donc j'ai pu sortir, évacuer ce qui me troublait. Et lorsque je rentre dans la chambre du patient, je rencontre quelqu'un qui est tout à fait différent, qui est tout à fait autre que ce que j'avais imaginé avant de partir, alors que bon, ça s'était peut-être mal passé la veille. Mais c'est vraiment à chaque fois salutaire. Et je suis vraiment émerveillé par cette irruption de l'altérité quand je rencontre le patient, et on peut vraiment aller sur des chemins nouveaux. Et ça, je veux dire, ça marche, je veux dire, à chaque fois en fait. Alors dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, nous écoutons cette parole merveilleuse. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant le lait et le miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est lui-même dans cette écoute attentive. Il ne reste pas indifférent aux cris de souffrance de ce qui oppresse chacun des membres de sa petite peuplade préférée. Vous savez pourquoi il la préfère? Parce qu'elle n'a pas de quoi être fière quand elle est écrabouillée, parce qu'il trouve suffisamment de creux, de vides, dans le cœur de cette petite peuplade pour pouvoir y dresser sa tente. Parce qu'il est bouleversé de voir combien c'est invivable. Il a ce désir d'amener ses gens vers la vie bonne et heureuse. Et maintenant, va, je t'envoie parmi les tiens. Cette parole de vie est pour moi aujourd'hui. Je suis médecin généraliste. Après mes études, j'ai travaillé pendant 5 ans comme remplaçant dans tout le Nord-Est. Sauf en Alsace et en Moselle, parce que je ne connais pas l'alsacien ou le mosellan, il était difficile pour moi de ne pas bien comprendre, en particulier les personnes âgées qui ne parlent que le dialecte local. Ça arrive quand ils prennent de l'âge. Cette période était très instructive pour bien connaître dans quelles conditions vivent les patients dans leur village ou leur petite ville, un peu loin de tout, comment ils se débrouillent tant bien que mal avec leur maladie dans leur petite maison. Comme j'avais remarqué que je cherchais un travail en équipe et que j'avais beaucoup trop de questions que je ne pouvais en traiter dans le cadre de la médecine générale, j'ai été amené à rejoindre la médecine polyvalente hospitalière à Remiremont dans les Vosges, ville où j'ai suivi toute ma scolarité. La médecine polyvalente, c'était un peu un travail de petit stagiaire médecin besogneux le jour et grand spécialiste la nuit, lorsqu'il faut faire de la réanimation, engager des traitements lourds pour essayer de garder en vie, prendre des décisions graves. Au cours de ce travail hospitalier, j'avais découvert 3 choses. La première, c'était que plus d'un patient sur 10 mourait dans notre service, quoi que nous fassions. et je n'avais jamais été confronté aussi fréquemment à cette réalité que je trouvais passionnante dans ce qu'il s'y vivait, dans l'équipe et avec les patients. La deuxième découverte, c'était les limites de ce que nous pouvons faire en réanimation, malgré des moyens très importants, ainsi que mes propres limites en tant que médecin et en tant qu'homme. Je me souviens en particulier d'une nuit où il y avait un patient qui avait des douleurs en raison d'une compression par une tumeur sur le nerf sciatique. Et cet homme, on a passé la nuit à essayer de trouver comment soulager sa douleur. À la fin, j'étais vraiment embêté parce que je connaissais les traitements, mais je les avais mis en œuvre et ça marchait pas. Alors, quand vous avez quelqu'un qui crie comme ça, et vous dites, mais pourtant, on a tout ce qu'il faut, il devrait être soulagé. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très difficile à vivre, en fait. Alors, je ne dis pas que c'était ma vocation, parce que je pense que ça a été un des éléments, mais il y a eu d'autres choses. Et la troisième chose que j'ai découverte, c'est que cela devenait quand même difficile de gérer de front 23 disciplines médicales dans mon service. C'est vrai que l'exercice de la médecine polyvalente actuellement est quand même complexe, parce que, enfin, notamment en petit hôpital, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui passent dans notre service, et ça va de la psychiatrie en passant par la dermatologie, la rhumatologie, la neurologie, enfin, il y avait vraiment beaucoup de disciplines différentes qui m'intéressaient toutes, mais à un moment donné, c'est difficile de tout gérer jusqu'à 23h30. J'ai donc cherché à suivre un diplôme universitaire en soins palliatifs. Alors là, il y a une petite anecdote qui m'amuse toujours, c'est que au moment de l'inscription, je me trouve à faire un choix entre 2 semaines. Et les 2 semaines, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que le programme de chacune des semaines, il est vraiment passionnant. Je vais quand même demander si je peux pas suivre les 2 semaines, tant pis, je ferai, parce que je voulais pas faire ça en 2 ans. Puis on me dit, mais non, c'est pas, vous n'avez pas à choisir entre les deux programmes, vous allez faire les 2 semaines. Le choix, c'était entre faire soit 2 semaines, soit y aller tous les mois pendant 2 jours, en fait. Mais c'est pour vous dire combien j'étais vraiment passionné par tous les thèmes qui étaient abordés dans cette discipline. Alors, j'ai eu un premier poste à Carcassonne, où une étudiante du DU avec qui j'avais fait mes études m'avait proposé de la rejoindre. Ce fut une expérience très riche, avec une équipe composée d'anciennes soignantes pleines d'expérience humaine et de nouvelles soignantes pleines d'enthousiasme. J'ai beaucoup appris sur la phase pré-agonique, puis la phase agonique, sur l'usage des traitements selon les situations et les patients, en essayant de trouver déjà les grandes règles sur pourquoi parfois cela soulage très bien et d'autres fois non. Puis j'ai choisi l'hôpital de Belfort-Montbéliard en raison des projets qui étaient en cours, lien fort avec l'équipe de prise en charge de la douleur pour déployer les techniques antidouleurs fines, déploiement d'une unité de soins palliatifs, déploiement des soins palliatifs dans les établissements pour les personnes âgées, proximité de Besançon où se déroule de la recherche en soins palliatifs avec le professeur Régis Aubry, en particulier pour comprendre pourquoi les patients demandent à mourir. Beaucoup de personnes s'exclament « Je ne sais pas comment vous faites pour faire ce métier-là, voir des gens mourir, c'est quand même dur, vous avez beaucoup de courage. » Souvent, j'ai beau essayer d'expliquer que je suis très heureux dans mon travail, mais il n'y a souvent rien à faire. Mon interlocuteur ne m'écoute pas, il s'enferme dans son préjugé. C'est un peu comme si un type chevelu disait à un chauve « Ah mon pauvre, je ne sais pas comment tu fais pour te coiffer tous les matins, ça doit être difficile. » Et c'est le même drame pour le patient qu'on n'écoute pas. Vous pouvez croire qu'il vit quelque chose de difficile alors que ce n'est pas du tout le cas. Je vous dis ça parce que parfois, même mes collègues disent « Ah, le patient a une dyspnée, c'est-à-dire une difficulté respiratoire ressentie par lui-même. » Et puis alors on dit « Mais vous lui avez posé la question ? Est-ce que vous êtes allé lui demander s'il avait du mal à respirer, s'il manquait d'air, s'il était en train d'étouffer ?» Ah ben non, ça se voit. On voit qu'il a des ronflements, il tire, sa saturation est mauvaise, son cœur bat très vite, il est en sueur, etc. Bon, je dis, mais allez voir, allez l'interroger. Alors, monsieur, est-ce que vous avez du mal à respirer ? Le monsieur réfléchit, puis il dit non, ça va. Mais c'est pour vous dire combien il y a un décalage entre ce qu'on se fait de l'idée, ce qu'on se fait de ce que vivent les gens et de ce qu'ils vivent vraiment. Il n'y a qu'une manière de le savoir, c'est d'interroger les gens. D'où une chose qui est très importante pour nous en soins palliatifs, c'est de savoir d'avoir vraiment le point de vue des gens. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'aime pas trop les endormir. Parce que quand on endort les gens, ils ne nous donnent plus aucune indication sur ce qu'ils vivent. Et parfois, c'est pas très agréable. Avant d'aller plus loin, je vais vous décrire un petit peu ce qui se passe au moment de la mort. Parce qu'il y a beaucoup d'idées farfelues et de croyances, y compris chez les médecins. J'ai été étonné de voir combien nous, médecins, nous n'avions finalement pas beaucoup de cours sur la mort. On a des choses assez médico-légales en disant, bon, pour signer le certificat de décès, il faut que vous constatiez telle chose, mais sur ce qui se passe juste avant, peu de choses. Si ce n'est, si ça arrive, faites vite une réanimation, appelez le 15, sortez le chariot d'urgence. Après, en réanimation, mettez des tuyaux, mettez de l'air, mettez du sang, mettez des traitements qui stimulent le cœur. D'accord, ça c'est pour essayer de faire passer un cap à un patient qui peut le passer, mais il y a pas mal de gens en fait qui ne pourront pas le passer parce qu'il faut quand même bien finir par mourir à un moment donné. Et puis que quoi qu'on fasse, ça ne se passera pas comme ça. La mort va arriver. Je vous dis ça aussi parce que sinon, si je le fais pas, on va encore nous inventer des lois pour apaiser nos peurs. Alors de quoi meurt-on? Qu'est-ce qui se passe? Alors la mort biologique est un phénomène naturel. Pour moi, c'est l'arrêt définitif du fonctionnement du cerveau, qui n'est plus irrigué par le mouvement du sang, propulsé par le cœur. Et en particulier, c'est l'arrêt définitif d'un centre très particulier, qui est le centre du cerveau le plus vital, celui qui commande la respiration. Comment en arrive-t-on à cet état? Il y a ce que les gens préféreraient avoir pour la plupart d'entre eux, c'est la mort subite. C'est plus très fréquent en fait. Ça arrive, hein, ça se voit, mais c'est quand même pas la situation la plus fréquente. C'est par exemple un caillot qui monte bloquer la circulation pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire, ce qui arrête le travail du cœur, qui ne peut plus pomper le sang, et puis donc du coup ce fameux centre respiratoire, il ne peut plus travailler, donc la mort survient. Ou bien c'est le cœur qui a tout d'un coup une panne électrique générale. Ou encore, c'est un saignement massif et rapide par rupture d'une artère. Voilà, en gros, les causes de mort subite. Ça arrive, hein, c'est pas... bien sûr que c'est pas... On peut pas tout éviter, mais finalement, même, enfin, dans ces événements-là, pour une bonne partie d'entre eux, la médecine fait en sorte que ça arrive moins souvent parce que, par exemple, l'embolie pulmonaire, si on y fait attention, pour une bonne partie des situations où on sait que ça risque d'arriver, on va vous donner un traitement anticoagulant. Du coup, ça peut plus arriver. Ou ça peut moins fréquemment arriver. Pour ce qui est de l'arrêt cardiaque subite, maintenant, il y a des gens qui ont des défibrillateurs implantables. Donc, pour une bonne partie d'entre eux, quand ils vont tout d'un coup, ça va tomber en panne, boum, il n'y a même pas besoin d'aller chercher le défibrillateur qui est à la gare. Dans une boîte bien fermée à clé, en appelant le chef de gare pour qu'il vous donne la clé pour ouvrir la boîte, etc., pour arriver en quelques minutes chez un patient qui, de toute façon, sera en bas débit cérébral et ce sera fichu. Là, le défibrillateur, il est implanté directement dans le corps et le système est en veille, détecte qu'il y a une panne générale, hop, il envoie la décharge qu'il faut et c'est reparti pour un tour. Et ça peut être couplé d'ailleurs avec un pacemaker qui va redonner aussi le rythme qui convient pour le cœur. Voilà pourquoi c'est un peu moins fréquent. Pour ce qui est de pas mal de situations, c'est beaucoup plus lent que ça parce que il y a un certain nombre de phénomènes qui se déroulent de façon progressive, ce qui fait que la mort est un petit peu, je dirais, à petit feu. On peut très bien avoir un monsieur qui est en train de saigner, alors tout le monde se dit, oh là là, ça va être l'hémorragie massive. Pas du tout. Le patient, il est dans le couloir, il vient vous chercher, il dit simplement qu'il a besoin qu'on lui change son pansement. La première fois que vous voyez ça, vous dites, mais non, ça va mal se passer, il va tomber par terre, etc. Pas du tout, non, c'est... Les ressources de l'organisme sont quand même assez impressionnantes et on a des gens qui nous épatent dans leur capacité d'adaptation, c'est-à-dire que le corps est quand même fait pour résister à pas mal de choses. Ce qui se passe, c'est que on a plutôt des événements qui, à un moment donné, font que un organe ou plusieurs organes essentiels vont tomber en panne. Par exemple, quand il s'agit des reins, donc ça on peut pallier au travail des reins par une dialyse, mais il y a des fois où on va décider de ne pas mettre de dialyse en route parce que c'est vraiment trop compliqué. Et si les reins sont complètement en panne et qu'il faudrait faire une dialyse, à ce moment-là, on ne peut pas vivre au-delà de 2 semaines. Il faut vraiment la panne où le rein ne filtre plus du tout les déchets. Avec le foie, c'est pareil, c'est une affaire de quelques semaines. Quand il est vraiment en panne dans les derniers jours, vous pouvez très bien être encore en train de parler avec la personne, et puis il y a un moment donné en fait où il n'y aura plus du tout de sucre, où il y aura une intoxication générale en fait du sang, et là le centre respiratoire, lui, enfin le cerveau d'abord et le centre respiratoire, à un moment donné va être complètement encombré et ne pourra plus du tout fonctionner. Le cerveau lui-même, il peut être pris avec un événement qui fait qu'il y a une pression qui est telle, ou un dysfonctionnement qui est tel, qu'à un moment donné aussi, ça va tomber en panne. Il n'y a pas moyen de circuler, de faire circuler les flux neuronaux pour que la moindre chose fonctionne. On m'a peut-être déjà entendu sur ce sujet, mais j'aime bien me répéter qu'il y a beaucoup d'idées qui traînent que si on arrête de manger, on va mourir tout de suite. J'ai une dame comme ça que j'avais suivi, qui m'avait dit vous m'accueillerez hein, quand ça ira pas bien. Alors on avait vraiment suivi pour plein de choses qui étaient difficiles. On avait même réussi à réorienter son diagnostic. Elle avait eu un surplus de vie et de vie de qualité. Et puis un beau jour, je l'avais pas revue du tout. Puis elle dit bah là je ne mange plus, je bois plus, je reste comme ça, je meurs. Et puis ça se passait pas. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait on ne meurt pas comme ça. On ne meurt pas en un instant parce qu'on l'a décidé, puis parce qu'on dit voilà, je vais plus m'alimenter, plus m'hydrater. D'abord, c'est pas très facile parce que souvent les gens ont quand même un petit peu envie de boire. C'est quand même un besoin vital. Donc il faut quand même essayer de laisser passer un petit peu d'eau. En tout cas, cette dame était très déçue de pas voir venir la mort survenir alors qu'elle l'avait décidé. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'en pouvoir mourir sans être alimenté, il faut 3 mois environ. J'ai vu un jeune qui était extrêmement maigrichon, qui n'a pas mangé pendant 80 jours et qui est mort après. Et 80 jours, je ne pensais pas qu'il tiendrait autant en fait. Bon, il faut dire qu'il avait aussi des copains qu'il voyait régulièrement, il parlait de foot. Je sais pas comment il faisait pour parler de foot, mais il était à moitié endormi, puis à des moments, paf, il se tapait les mains, là, comme ils font, là, les jeunes, et puis ils échangeaient 3 mots, et il a tenu comme ça ces 80 jours. On le sait parce que c'est son frère qui l'a noté dans un cahier. Il a rien mangé pendant 80 jours. Ne pas s'hydrater. Alors, il y a des fois, on peut pas faire autrement que de ne pas s'hydrater parce que c'est plus possible. À ce moment-là, ce qu'on sait, c'est surtout nous, de notre côté, on peut toujours un peu hydrater, mais les patients qui décèdent de déshydratation, c'est les patients qui sont sous les décombres, et là, c'est environ 2 semaines maximum. Et il faut encore être dans des bonnes conditions physiques, pas trop chaud, pas trop froid, etc., en fait, pour pouvoir survivre, mais au-delà d'environ 2 semaines, on peut pas vivre sans eau. Alors voilà, ça c'était déjà important qu'il y ait ces grandes notions-là, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Et puis après, il y a aussi ce qui se passe dans les derniers moments, alors qui est toujours impressionnant pour l'entourage. Et là, on me demande souvent, là, docteur, il faut faire quelque chose parce qu'il souffre, il ne faut pas le laisser souffrir comme ça. Alors, sauf qu'il y a aussi une autre partie des gens qui disent, ah ben tout se passe bien. Bon, alors pourquoi il y a des différences de point de vue comme ça? Ça, c'est souvent des différences de vécu et des différences de représentation de ce qui se passe. Alors généralement, les derniers jours, qui sont en général les 2 ou 3 derniers jours, maximum une semaine, on a l'apparition de signes qui sont importants. Le patient n'est pas comme d'habitude, il est plus affaibli, ou même il peut ressentir en fait que quelque chose en lui se passe et il dit « je sens que je vais mourir ». Sauf qu'il ne peut pas le dire toujours à ses proches parce qu'ils vont dire « mais non, tout va bien aller », alors que lui sait que ça ne va pas du tout bien aller. Et donc, dans cette situation-là, le patient voit que quelque chose n'est pas comme d'habitude parce que la tension baisse, la fréquence cardiaque augmente, il pèse les genoux pour respirer. Alors ça, pour la gêne respiratoire, on peut toujours faire quelque chose. Il peut être très angoissé. Ça aussi, pour l'angoisse, on peut toujours faire quelque chose. Les douleurs peuvent se majorer. On peut toujours faire quelque chose pour le soulager. Et puis, à un moment donné, il va, de façon spontanée, sans que ce soit nos traitements, parce que même sans traitement, ça arrive comme ça, tomber dans un coma. Alors, ça vient pas tout de suite, parce que le cerveau, quand il tombe en panne, ça commence par une confusion, où les gens sont d'abord désorientés, ils savent plus trop où est-ce qu'ils sont à l'hôpital, est-ce qu'ils sont chez eux, ils savent plus trop aussi si c'est le matin ou l'après-midi. Ils savent plus du tout se situer dans le temps. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, ils ont tendance à dormir fréquemment et avoir des éveils, puis des endormissements. Les endormissements, d'ailleurs, on n'arrive pas à les réveiller. Et ceux qui peuvent parler à ce moment-là, s'ils ne sont pas trop affaiblis, peuvent très bien nous décrire ce qu'ils vivent dans les interludes, dire s'ils ont encore mal, si ça se passe bien, si ça se passe mal. Pour certains patients, ça se passe très bien. Ils sont, enfin, sauf qu'ils se sentent affaiblis. Mais comme ils sont endormis, quand ils n'ont plus forcément de grands besoins parce que ils sont tellement affaiblis que c'est comme quand on a une grande grippe, on est au fond de son lit et il n'y a pas moyen de faire grand chose d'autre que d'être dans son lit et de rester de façon très passive. Et puis survient la phase c'est toute la phase pré-agonie, quand on peut encore communiquer avec le patient. Alors la communication, elle va jusqu'à un moment où, quand on interpelle le patient ou quand on le stimule, on n'a plus aucune réaction. Si on a encore des réactions, le patient n'est pas encore dans le coma. Combien de fois je suis arrivé dans des chambres, on m'a dit, mes confrères disent, non, là il est dans le coma, j'arrive, bonjour monsieur, et puis là, j'ai les sourcils qui se lèvent, je pose une ou deux questions, et j'ai des tout petits signes de tête, où le patient dit oui, non. Parfois, il peut y avoir une larme, il peut y avoir des éléments comme ça. Alors, parfois, c'est difficile parce qu'on peut interpréter. L'interprétation est toujours un grand risque, donc il vaut mieux être deux pour essayer de conforter ce qu'on voit. Et puis de voir si c'est reproductible et si ça correspond à un code. On essaie de trouver des codes avec les patients pour le oui et le non, avec ce qui peut encore bouger. Donc là, il y a des grandes questions, c'est... Moi, j'essaie toujours de les situer, de dire où est-ce qu'ils sont, qui je suis, qu'est-ce qui se passe, de façon très simple, où ils se trouvent, quel jour on est, et puis pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va essayer de voir, et puis je leur pose deux, trois questions pour savoir en fait s'ils ont mal, s'ils ont des symptômes pénibles. En revanche, dans la phase agonique, c'est plus du tout ça. La phase agonique, c'est une phase de coma, où là, le patient, vous avez beau le stimuler, il n'y a aucune réaction. Il va, donc on a beau le pincer, en fait il y a des tests particuliers pour savoir si quelqu'un est dans le coma, et donc là on n'a aucune réaction. Et là, pourquoi il n'y a aucune réaction? Parce que toute la partie du cerveau qui est, les parties supérieures du cerveau, les plus élaborées, là vous avez conscience, elles sont complètement en panne. Elles ont été mises d'ailleurs en panne parce qu'il faut faire survivre juste l'essentiel, le centre respiratoire et cardiaque. Donc tout l'organisme est centré sur ce travail pour faire survivre ce centre-là. Et ça ne va pas durer parce que la maladie est en cours et à un moment donné, les choses vont s'arrêter. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on peut prédire, à quelques jours près, on peut dire, voilà, ça va mal se terminer et prévenir quand même la famille en disant, écoutez, voilà, les choses sont en train de dérouler. C'est vrai que tous ces délais, c'est pas forcément très rassurant. D'ailleurs, la plupart des patients disent « je n'ai pas peur de la mort en soi, mais plutôt de ce qu'il se passe avant, de la souffrance. » Alors là, il y a une question qui est pour nous essentielle, c'est quoi pour vous la souffrance ? La souffrance est très simple, c'est ce qui est vécu comme pénible. La douleur n'est qu'une seule composante de la souffrance, parfois largement prédominante, que nous savons pas trop mal traiter. Je dis pas trop mal parce que nous avons des techniques parfois combinées qui amènent à faire vraiment diminuer la douleur à un niveau bien plus supportable. Nous ne pouvons pas toujours la faire disparaître complètement, mais suffisamment pour que le patient retrouve du confort et du sommeil. Parfois les gens vont pouvoir reprendre la marche parce que la douleur les clouait au lit. La souffrance est un ensemble beaucoup plus vaste, qui peut comporter de nombreux éléments. Vous pouvez être militaire heureux, courageusement amputé après un acte héroïque sur un champ de bataille et couvert de médailles. La perception de votre finitude peut vous sauter à la gorge à l'occasion d'une chute peu glorieuse dans les toilettes et vous inquiéter pour l'avenir de vos trois enfants en bas âge que vous avez eu avec votre troisième épouse qui n'a pas de travail. C'est une caricature, hein, ce que je fais là, mais c'est aussi des choses qui peuvent être vécues. Pour vous dire en fait qu'on peut souffrir terriblement dans son corps de la souffrance de sa propre famille qui va se retrouver en difficulté. Angoisse, inquiétude financière, incertitude sur le lieu où pouvoir habiter, rupture familiale, perte de sens de l'existence sont parmi les nombreuses sources de souffrance. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste, en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra, vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce que je vous dis là. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Notre service de soins palliatifs est dans cette joie profonde de cette rencontre de l'autre tous les jours. La maladie rend les relations plutôt authentiques. Et pour ma part, je suis émerveillé par cette joie de rencontrer le Seigneur tous les jours. Ce n'est pas tant ce qu'il faudrait faire qui nous intéresse, qu'en premier lieu la rencontre de chaque personne qui vient chercher à ne pas être tout seul dans la recherche d'un chemin vivable. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous essayons d'être là dans les questions qui se posent. Docteur, je n'en peux plus, j'aimerais que vous me fassiez mourir. Heureuses les oreilles qui entendent ce cri, car il faut une certaine qualité d'écoute et de disponibilité pour que ce cri puisse apparaître et oser exprimer la violence de ce qu'il se vit. Je suis plutôt inquiet qu'il y ait des services de soins palliatifs où ce cri, paraît-il, n'existe pas. Contrairement aux apparences trompeuses, l'urgence est de comprendre ce qui a motivé ce cri de détresse qui fait envisager ce qui était impensable, à savoir que le patient demande à abréger ses jours. Ce qui en fait la gravité, c'est que le patient fait face à une pénibilité tellement débordante qu'il ne voit pas d'autre issue que de porter atteinte à sa propre vie. Qu'est-ce qui est le plus pénible ? La douleur, étouffée, l'angoisse, la soif, perdre la tête, ne plus pouvoir se mouvoir, ne plus pouvoir dormir depuis plusieurs nuits, revivre quelque chose de semblable à un emprisonnement déjà vécu, ne plus reconnaître son visage, se sentir une charge pour les siens, parce que c'est mieux de partir avant que ça se gâte. Est-ce que les soins palliatifs font mourir ? Je suis obligé de vous le dire, mais non, les soins palliatifs ne nous font pas mourir, parce que j'entends ça dans la population. Il y a des gens qui croient que les soins palliatifs sont là pour faire mourir les gens. Non, non, nous ne faisons pas mourir les gens. Est-ce que la loi permet de faire mourir ? Non plus. Et si la loi le permettait, est-ce que nous mettrions en œuvre ce que nous demande le patient ? Non, c'est pas de la médecine ça. Est-ce que c'est à cause de principes religieux ? Non plus. Quand j'entends on me dit, voilà, vous c'est votre foi qui fait que vous ne passez pas à l'acte. Non, non, c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis retrouvé devant une dame qui était en train d'avoir des difficultés respiratoires. Alors pour l'aider, j'étais avec un aspirateur à mucosité, il fallait enlever l'oxygène. J'enlève l'oxygène, je mets mon aspirateur à mucosité, j'enlève les mucosités, et puis Je regarde la saturation de la dame, les choses étaient en train de se dégrader pendant que j'étais en train de faire mon acte. Je dis, mais elle est en train de mourir. Si je ne remets pas l'oxygène, elle va mourir. Et elle était à un stade qui était quand même avancé de sa maladie. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là, en fait? Est-ce que je laisse les choses évoluer ou est-ce que je remets l'oxygène? Eh bien, il y a quand même un saisissement qui est profond, qui incite à ne pas arrêter l'oxygène à ce moment-là, parce que ça ne convient pas. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses pour cette dame-là à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments, on ne va pas décider de le faire parce que c'est opportun, parce que ça ne sert plus à rien, parce que ça peut même gêner quelque chose. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas opportun. Eh bien, il y a vraiment un appel profond à dire non, c'est pas encore le moment. C'est survenu plus tard, au bon moment, mais c'était pas encore le moment. Mais alors, vous ne servez à rien. Est-ce le rôle de la médecine de provoquer la mort? Quand les gens nous disent, voilà, vous ne servez à rien. J'ai entendu ça de la part de catholiques qui nous disent, mais si vous provoquez pas ma mort, là, mais à quoi vous servez en fait les soins palliatifs? Ben non, c'est pas... On n'a pas cette réponse toute faite, c'est même exigeant en fait hein, de ne pas... ce serait si facile. Mais non, on n'a pas cette réponse-là, on ne veut pas l'avoir, et ça nous mettrait extrêmement mal à l'aise, en fait, d'être un distributeur comme ça de mort, alors que ça se fait pas depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Parce qu'Hippocrate, à ce moment-là, dit « Je ne remettrai à personne une drogue mortelle, si on me le demande, ni ne prendrai l'initiative d'une telle suggestion. » Hippocrate, c'est la base de toute notre médecine moderne, sur les fondements éthiques. Et puis, je n'ai pas connaissance de paroles de vie dans la Bible qui demandent de provoquer la mort de qui que ce soit. Au contraire, on retrouve cette recommandation forte, qui est le ciment d'une société, tu ne commettras pas de meurtre. Alors, mais la sédation, est-ce que c'est pas une certaine façon élégante de provoquer la mort? Dans les pratiques que nous voyons effectivement de la part de certains médecins qui sont pas forcément attentifs en fait aux bons usages, oui, ça peut être une certaine forme, ils savent pas tellement ce qu'ils font, et ils disent bon voilà, le patient est en soins palliatifs, donc je le fais dormir. Quel est le problème? C'est qu'en fait le patient, il peut être dans une situation palliative, c'est-à-dire que effectivement il est avec une maladie qui va entraîner sa mort, on ne sait pas quand, mais il va vivre avec. Mais c'est pas parce qu'il est en soins palliatifs qu'on va le faire taire. Ça n'a pas de sens. Hein. Si on est amené à provoquer un endormissement, c'est vraiment qu'on ne peut pas faire autrement. Heureusement, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est notre société savante, a défini des critères de recevabilité d'une demande de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette possibilité est envisageable si et seulement si le patient présente une maladie grave qui est mortelle. Il faut qu'il soit dans les derniers jours de sa vie. On a estimé que c'était moins de 2 semaines. Alors c'est difficile de dire moins de 2 semaines, mais c'est quand vraiment on se dit, bon, il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous font dire que là, ça ne va pas aller très loin. Donc il faut des critères objectifs pour dire que le patient n'a plus que 2 semaines à vivre, environ. Il faut qu'il existe une souffrance réfractaire, c'est-à-dire qu'on a tout mis en œuvre pour le soulagement de ce qui est très pénible et qui est constaté, et qu'il est constaté qu'il n'y a aucun soulagement sans utiliser un traitement pour endormir la personne. C'est-à-dire qu'on a tout utilisé, on s'aperçoit que le moment où la personne est le mieux, c'est quand on commence un peu à l'endormir et qu'on regarde ce qui se passe. Là, c'est lié, il y a un apaisement. Quand on réveille le patient, il n'y a aucun moyen, il dit sans arrêt qu'il est en souffrance. Il ne dit d'ailleurs plus que cela. Et il faut une procédure collégiale. Alors, ça se déroule que le patient soit en capacité de décider pour lui-même et, ou qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire qu'il faut consulter les directives anticipées de la personne, si elles existent. Consulter la personne de confiance, qui est le grand témoin du patient, si elle existe. Les proches, l'équipe de soins, et faire appel à un autre médecin pour avoir un avis extérieur. Donc il y a quand même des garanties qui sont prévues par la loi. C'est ça, la loi de 2016. Et j'ajoute qu'il faut que soit constaté que tous les points de vue convergent pour dire que vraiment, dans cette situation singulière, on ne peut pas faire autrement. Pour les soignants, à ce moment-là, ça peut pour tout le monde, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que la situation est tellement pénible, ça se voit, on a tout essayé, et là, oui, le patient est de toute façon en train de mourir, et on accompagne la maladie, et on accompagne ce symptôme ou ces symptômes qui sont pénibles pour les faire disparaître, pour qu'il n'y ait plus cette pénibilité qu'il est en train de vivre. Il s'agit bien là de soulager ce qui ne peut être soulagé autrement. L'objectif est le soulagement, même si l'on perd ce qui est une des valeurs les plus chères aux soins palliatifs, la parole du patient. C'est consentir au fait qu'il n'y a plus de parole autre que souffrante, faire dormir de façon permanente un patient, cela peut être vécu comme la perte de l'autonomie de décision et comme une mort relationnelle. La parole qui n'est que souffrante est déjà une mort relationnelle. C'est bien dans ce sens-là que c'est faisable, en fait, que ça peut être envisagé. Il y a des situations assez rigolotes où des gens nous demandent de façon assez paradoxale de les faire mourir et puis en même temps ils disent, j'aimerais bien quand même ne pas arrêter de manger. On dit, ça c'est un peu bizarre parce que vous allez mourir et puis mais vous avez encore faim, donc vous avez quand même un certain appétit de vivre. Et bon, il y a des gens simplement aussi qui ont envie ils n'ont pas dormi depuis un certain temps, donc on essaie plutôt de les faire dormir la nuit. Et puis de les réveiller le matin, et puis de voir ce qu'ils en disent. Il y avait un monsieur comme ça, en fait, qui me dit, mais faites-moi dormir, j'en peux plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout ça, j'en peux plus, ça m'intéresse plus, je vois pas le sens, etc. Et puis je dis, moi, ce que je peux vous proposer déjà, je vois bien que vous n'avez pas dormi depuis plusieurs jours, je peux déjà vous proposer d'être endormi comme ça pour la nuit, et puis de toute façon, je vous réveille demain matin, puis vous allez me dire, après avoir passé une bonne nuit, comment ça se passe? Il dit, non, ne me réveillez pas, de toute façon, je veux mourir. Et puis ce soir-là, il y avait un match de foot à la télé. Il a regardé le match de foot. Vous dites, mais quand même, là, dans ces situations-là, avec les psychologues, c'est évident, on dit, mais non, on peut pas. Enfin, patient, il n'est pas du tout dans une dynamique de mort. C'est pas la même chose que le patient qui est souffrant, qui vous dit, mais je vois plus d'horizon autre que la souffrance. Alors, l'arrêt des traitements qui maintiennent en vie est généralement vécu par les soignants avec une grande prudence. Et les médecins préfèrent qu'il n'y ait aucune relation entre la fin d'un acte qui maintient en vie et la survenue de la mort. Ce qui se vit plus facilement pour eux quand ces deux événements sont distants et que ne s'exprime que la maladie qui poursuit seule son œuvre de mort. Ça, c'est aussi important en fait, parce qu'en réanimation en particulier, mes confrères, ils sont parfois amenés à arrêter des machines parce qu'ils sont vraiment au bout, que ça sert à rien, qu'ils voient qu'ils maintiennent des organes qui fonctionnent plus, et que, après avoir regardé, s'être concerté, non, on va pas poursuivre ces soins qui sont disproportionnés et qui servent plus à rien. Mais même là, pour eux, éteindre le bouton de la machine respiratoire, c'est toujours un acte qui est vécu comme pas si évident que ça, en fait. Ils préfèrent qu'il y ait quand même du temps qui se passe entre ce moment-là et le moment où le patient décède. Alors, en sachant qu'effectivement, une partie du temps, c'est ce qui se passe, parce que l'organisme va continuer doucement, et puis ça va s'arrêter comme ça. Alors, dans ces conditions-là aussi, ils sont amenés, puisqu'ils savent que ça peut être très pénible pour le patient d'être dans cette situation-là, c'est aussi la deuxième situation, on peut garder quelqu'un qui était déjà endormi pour supporter la machine, on peut le garder endormi pour pas qu'il souffre de cette gêne respiratoire au réveil, qui de toute façon va vers la mort. Une grande partie de notre travail en équipe mobile est un travail de discernement dans les situations complexes, où il devient difficile de savoir si l'action médicale est encore efficace pour amener une guérison ou du moins une amélioration de l'état du patient. Notre travail commence alors par un inventaire. Que connaissons-nous des maladies en cours? Que vit le patient? Quels sont ses objectifs? La démarche éthique que nous entreprenons s'appuie entre autres sur les travaux du père Patrick Vespirène, jésuite, qui a été un des pionniers, avec d'autres, pour introduire la démarche palliative en France. La démarche éthique est déclenché lorsqu'il existe des questions d'arrêt de traitement vitaux, lorsqu'une sédation va être mise en œuvre, lorsqu'une tension existe entre plusieurs projets de soins opposés. Vous avez une équipe de soins qui est divisée, qui dit non, il faudrait faire ça, puis l'autre qui dit mais non, c'est ça qu'il faudrait faire. Et puis on ne sait plus trop quoi faire parce que chacun tire le projet de soins dans un sens et dans l'autre, et les soins n'avancent pas. ou encore lorsque le projet de soins est devenu illisible. Une fois, en fait, on a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne sait plus trop qu'est-ce qui était important. Dans ces cas-là, nous essayons de réunir tous les acteurs soignants et médecins qui travaillent auprès du patient, ce qui n'est pas toujours facile parce que tout le monde est très occupé, mais ça marche très bien, par exemple, dans des endroits où on dit qu'on n'a jamais le temps, parce qu'il y a peu de soignants, mais alors, il y a effectivement, les gens arrivent quand même à se poser pour être ensemble, c'est les maisons de retraite. Alors, j'aimerais bien qu'on entende autre chose sur les maisons de retraite, c'est quand même des lieux qui, pour la plupart d'entre eux, sont des lieux de soins et ça se passe plutôt bien. Je ne dis pas que tout se passe bien, les gens sont pas, c'est pas toujours facile en fait, de vivre en maison de retraite. Il y a beaucoup, les personnes âgées vivent beaucoup de pertes, mais c'est quand même des lieux où il y a de la réflexion pour essayer que les soins se passent le mieux possible et les soins palliatifs se déplacent pour rencontrer les patients dans les situations les plus difficiles et pour discuter avec les équipes pour savoir comment organiser les soins au mieux. Donc, je disais, nous essayons de réunir tous les acteurs. Alors, tous ces acteurs qui travaillent autour du patient, ça permet d'avoir des points de vue très riches. Le cadre de la rencontre est celle de suivre une éthique du dialogue telle que la propose Habermas, où la parole de chacun a autant de valeur. Cette éthique du dialogue est basée sur l'écoute de points de vue qui peuvent être opposés, aucune proposition n'étant a priori meilleure que les autres, mais seulement déposée sur la table comme solution possible. Nous examinons ensuite les avantages et les inconvénients de chacune des propositions par rapport aux objectifs identifiés qui sont ceux du patient. S'il est difficile de trancher, nous essayons de trouver les valeurs qui sous-tendent chacun des points de vue, le blocage de l'action venant de la difficulté de choisir entre deux valeurs qui ne peuvent pas s'exercer ensemble dans cette situation. Pour des problèmes similaires, il y a autant de solutions différentes que de groupes différents, l'essentiel ne se trouvant pas tant dans la solution trouvée que dans les clés du raisonnement qui a amené à privilégier un choix plutôt qu'un autre. La décision, si elle est bien posée, amène la paix dans l'équipe, elle ne s'impose pas, elle tombe comme un fruit mûr. Elle permet d'écrire un projet de soins cohérent qui peut être repris, même si les protagonistes avaient des points de vue différents au départ, parce que ce projet fait sens pour toute l'équipe. La décision est mise en œuvre, elle est réévaluée au bout d'un temps défini, ou si de nouveaux éléments apparaissent pour vérifier si le projet de soins est toujours adapté. Il s'agit d'un exercice les plus concrets de la démocratie. Et ce serait bien que ça se développe à d'autres endroits. Il sollicite toutes les différences, chacun apportant un point de vue complémentaire selon ce qu'il est et qui vient éclairer la situation au service du plus fragile. Cet exercice sollicite la conscience, ce lieu où le Seigneur chuchote les paroles de vie. Et c'est une œuvre de création qui permet de séparer ce qui est emmêlé et de faire jaillir parfois des solutions nouvelles inattendues. Alors des fois on ne peut pas toujours le faire parce que les acteurs sont dispersés, alors on essaie de regrouper des points de vue un peu successifs, de réunir certains groupes, mais ce n'est jamais aussi riche que quand tout le groupe est là, parce que c'est bien dans cet échange de paroles que surgit quelque chose de nouveau. J'ai aussi quelques illustrations en fait de ce que j'ai déjà vécu avec certains patients, enfin, ça peut faire l'objet d'un prolongement si vous le souhaitez, mais on va plutôt laisser place à un temps d'échange après un temps de pause, je crois.